Économie, environnement, société, vous en êtes où sur ces sujets? Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute!
Bonjour, merci d'être là aussi nombreux pour Livre en Marche 2025. Je suis Céline Puffardichvili et je suis très heureuse d'animer cette conférence en particulier. Il faut vous dire qu'il y a quelques années, je suis venue en tant que co-autrice et cette année, comme les dernières années, je suis venue en tant qu'animatrice parce que le festival nous donne tellement d'énergie et tellement de nourriture spirituelle à mâcher, travailler, avaler, que c'est irrésistible. Personnellement, je suis devenue absolument accro. Qui pourrait résister au plaisir de livres, de lire trois essais comme ceux que j'ai lus cet été? En tout cas, moi, je ne peux pas résister. Voilà. D'autant plus que le sujet qu'on aborde aujourd'hui me touche de près en tant que citoyenne, mais aussi en tant que professionnelle. Parce que dans ma vie professionnelle, je manie le verbe, donc je parle autant que j'écris, je lis, je fais passer des messages, je les triture forcément, je les déforme, j'en ai peur. Et j'ai une agence de relations presse, donc c'est particulièrement délicat parce que je prends des messages de la part de gens qui me paient pour le faire et je les transmets à des journalistes qui prennent ces messages sur la base de plein d'autres intérêts, ou qui ne les prennent pas d'ailleurs, dans ce cas-là je suis bien embêtée, mais ça arrive. Et autant dire que le message, comme dans un jeu de téléphone arabe, il est tiraillé, il est utilisé, il peut être manipulé. Donc voilà, c'est pour ça que quand Karen et Dominique m'ont proposé, les organisateurs du salon Livre en Marche m'ont proposé ce sujet, j'ai trouvé ça absolument irrésistible parce que j'essaie de faire ce métier correctement sur le fond et sur la forme. Donc autant dire que le sujet de la vérité m'interpelle, me pose question tous les jours. En plus, je travaille sur les sujets de transition environnementale et transition sociétale, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces sujets-là ne font pas consensus, sont également font l'objet de déformations et servent des intérêts dans tous les sens. Donc, dernièrement, trois sénateurs ont tiré la sonnette d'alarme en disant que la désinformation climatique menaçait nos démocraties. Alors, j'en viens à notre sujet donc, proposé, que je vais vous lire afin de peser tous les mots, bien que je me doute que si vous êtes dans cette salle, ce n'est pas par hasard. Donc, ça s'appelle « Dire la vérité, toute la vérité ». Ou la post-vérité, fake news, prime donnée aux mensonges, y compris au plus haut niveau politique ou économique, ou climatique, comme l'ont rappelé nos sénateurs, nous sommes entrés à l'ère de la post-vérité. Avec quelles conséquences? Pour aborder ce sujet, nous avons une heure, moins les trois minutes de mon blabla, plus 15 minutes de questions-réponses, parce que j'espère que vous en aurez autant que j'en ai eu en lisant ces livres. Et donc nous avons des invités tous experts dans leur domaine, qui ont une lecture. Alors, ce qui m'a bien embêtée, c'est qu'ils sont tous d'accord sur le sujet, mais que vous avez des façons différentes d'aborder ce sujet. Je trouve que leurs trois visions, leurs trois lunettes pour aller dans ce sujet sont très intéressantes. Alors, laissez-moi vous présenter rapidement. Vous pourrez corriger si vous le souhaitez. Attention, biographie express et forcément incomplète en mode question pour un champion. Je suis épistémologue. Ah, voilà, je savais que je buterais sur ce mot. Épistémologue, ça commence fort. C'est l'étude critique des sciences. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Je suis experte et entrepreneur en innovation sociale et numérique et plein d'autres choses. Mais j'arrête de me prendre pour Julien Lepers, ça ne marche pas du tout. Carole Leipzig, dans ton dernier ouvrage, La dérive du réel, que je vous montre parce que c'est la page pub, le livre en marche, paru aux éditions de l'Aube, tu décris une mécanique implacable. Nous ne sommes plus ancrés dans le réel. Nous ne revenons plus au port et ce n'est pas le fruit du hasard. Tu expliques comment nous évoluons dans des récits-mondes que tu appelles story world, façonnés par le storytelling médiatique, dont j'ai l'horreur et l'honneur de faire partie, évidemment, et qui brouille la limite entre fiction et réalité. Michaël Lenné, je vais m'abstenir de faire Julien Lepers, biographie en 45 secondes. Tu es maître de conférences en économie à Paris 8, tu es un auteur prolifique. Tes champs de recherche sont très larges, tu travailles entre autres sur les intuitions, les émotions, les croyances et sur l'économie écologique. On a eu un petit teaser du livre d'après, ça va remuer. Donc on ne sera pas surpris d'apprendre que dans ton ouvrage « L'ère de la post-vérité », paru aux éditions La Découverte, et que voici, tu démontres qu'à l'ère numérique que nous vivons, nous préférons croire en nos émotions, nos peurs, nos fantasmes, plutôt que dans les faits scientifiques. Et que c'est ce qui contribue bien sûr à la montée de la post-vérité. Et tu t'appuies sur des études en psychologie, en neurosciences et en économie des émotions pour analyser comment les algorithmes favorisent les contenus anxiogènes et ce faisant confortent nos convictions et nous enferment dans des bulles cognitives. Ce qui est affreux, c'est que tu démontres aussi qu'on adore être dans nos bulles cognitives et qu'on y reste bien au chaud. Thomas Huchon, tu es aussi un habitué de Livre en Marche. Tu es journaliste, réalisateur de documentaires et spécialiste français de la lutte contre la désinformation. Et tu pilotes le projet Anti-Fake News AI. AI comme Artificial Intelligence, donc de l'IA pour retrouver du réel en quelque sorte. Sur cette table ronde, on peut se poser des questions. J'ai trouvé que le paradoxe était énorme. Dans ton ouvrage « Résister aux fake news », paru aux éditions First, tu proposes un manuel de résistance quotidien face aux théories du complot en décryptant les 20 idées reçues les plus courantes. Alors, il y en a des très, très drôles, hein, vraiment. En plus, elles sont illustrées par Rodo. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc, tu parles du réchauffement climatique, évidemment, des chemtrails et de la théorie du grand remplacement. Chaque chapitre expose l'origine de la théorie, ses promoteurs et propose des contre-arguments véridiques, tout en conseillant des attitudes positives, quelque part, pour favoriser le dialogue plutôt que la confrontation. Et donc, tu vises à armer le lecteur contre les arguments de tonton parano ou de tata crédule. Voilà, donc pour commencer du bon pied, Carole, Michaël, Thomas, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? La main sur vos trois livres, l'autre sur le cœur. Une autre main, voilà. Bref, on va avoir de la vérité, c'est promis, c'est juré. Merci à tous les trois. Ils l'ont juré.
Ma vérité, en tout cas.
Ta vérité, alors...
Et pas toute ma vérité.
Voilà, donc on y est, on est en plein dedans. Question 1. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait donner l'objectif de vos livres respectifs? Parce que tous les trois, vous invitez à prendre de la lucidité critique, à interroger vos certitudes, à accepter la nuance, l'altérité, la contradiction, tant que cela reste fondé sur le réel. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Je viens de vous faire Matrix, là, le premier. J'espère que vous avez vu. 1999. Bon, voilà. En gros, par quel bout avez-vous pris le chemin pour arriver à votre ouvrage et nous le partager? Et là, le plus dur reste à faire, c'est le moment de ma thèse en 180 secondes. Allez-y, qui commence? Personne ne veut commencer.
Bah déjà, avant, tu vas même les compter dans les 180 secondes, je vais vous dire bonjour, je suis contente d'être là avec vous tous. Merci de ton animation, merci de la bonne humeur, tout le monde. Alors, je pense qu'on sera tous d'accord sur une chose, sinon vous ne seriez pas là, et nous non plus, c'est que le réel existe. C'est-à-dire qu'il existe des faits, des données, des événements bruts, en dehors de notre conscience et de notre volonté. Ça porte un nom, en philosophie on parle de réalisme épistémique. Alors par exemple, l'effet brut c'est quoi? Il y a environ 300 corps dans une structure, presque tous les corps sont à un niveau, et sur un autre niveau, il y a 4 autres corps. Voilà. Maintenant, à partir de ces faits bruts, de ce réel, nous construisons tous une réalité, et j'oppose ces deux mots. Cette réalité, c'est une compréhension, une image, une représentation de ce réel. Par exemple, je pense que la plupart d'entre nous diront que nous sommes dans un festival, que vous êtes en train d'assister à une conférence. Il y a peut-être une personne, quelque part, qui pense que 300 personnes humaines ont été kidnappées par des reptiliens, que les reptiliens sont là et sont en train de faire des manipulations sur vous.
Je confirme.
Tu confirmes. Pour passer, tu es un reptilien, je le savais, pour passer du réel à la réalité, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise tout un outillage linguistique, une langue, narratif, un imaginaire, des connaissances, et c'est comme ça qu'on passe de l'un à l'autre. Et cet outillage symbolique, c'est ce que j'appelle un récit monde, en anglais un story world, C'est pas pour faire de l'anglais que je l'ai pris, c'est parce que le concept existe dans l'étude des récits qui s'appelle la narratologie. Ça suffit pour commencer.
En tout cas, c'est un bon teaser. Le livre est exceptionnel. Merci pour ce teaser. Tu vas nous apporter d'autres éléments au fur et à mesure.
Merci, Céline.
Merci à toi. Thomas,
bonjour. De même, je suis très heureux d'être ici. J'adore débattre. Merci pour ton animation. Je dirais qu'à l'origine de la démarche scientifique, il y a l'étonnement. Ta question, comment est-ce que j'aboutis à une réflexion là-dessus ? Il y a l'étonnement, et je dirais même plus, un peu plus que de l'étonnement, il y a de la sidération. Face à une actualité qui est hélas récurrente, où par exemple, ceux qui attaquent la démocratie au Brésil et aux États-Unis le font autour de complots imaginaires, au motif de complots qui n'existent hélas que dans leur représentation, que dans leur esprit. Où la COP28, qui doit décider de notre sort climatique, se déroule dans un des pays les plus pollueurs au monde, où on peut dire que le discours dominant aujourd'hui dans l'opinion publique française est un discours qu'on pourrait appeler climato-dénialiste, c'est-à-dire un discours qui soit promeut l'inaction climatique, soit minimise la gravité du changement qui est en cours, et donc cette espèce de hiatus grandissant entre les apports des connaissances scientifiques et l'opinion, ça, c'est quelque chose qu'il me fallait absolument comprendre. Je ne peux pas rester dans la déploration morose, je suis un intellectuel, et donc j'ai besoin de comprendre, et j'ai passé 3 ans d'études pluridisciplinaires, puisque ma spécialité de recherche, c'est vraiment comment on fonctionne, comment notre esprit fonctionne, comment nos émotions, nos intuitions, nos raisonnements, nos croyances, qu'est-ce qui les fait naître, qu'est-ce qui les fait évoluer.
Merci. Thomas ?
Eh bien, à quoi il sert ce livre ? Pour répondre à cette question, j'ai envie de vous en poser une. Est-ce que vous avez déjà vu des bébés pigeons ? Non. C'est normal. Parce que les pigeons, c'est pas vrai. Birds are not real. Les oiseaux, c'est pas vrai. Entre 1947 et 1955, 7 milliards d'oiseaux ont été massacrés par la CIA afin d'être remplacés par des drones de surveillance. Ouais. Vous n'êtes jamais rendu compte que quand un pigeon se pose sur une île électrique, tout va bien. Par contre, quand c'est une chauve-souris, elle brûle instantanément. C'est parce que c'est des drones. Et c'est comme ça qu'ils se rechargent. Ça, c'est ma théorie du complot préférée. Birds are not real, c'est un truc qui a été inventé par un mec qui s'appelle Peter McIndoe en 2016. Il a inventé ce truc complètement délirant pour se moquer des électeurs de Donald Trump. Et le problème, c'est toujours le même avec les mensonges. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par y croire. Il y a donc des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont commencé à adhérer à cette idée et à organiser des manifestations aux États-Unis dans lesquelles ils criaient « Les pigeons, c'est pas vrai ! Les corbeaux, c'est du faux !» Et en fait, à quoi il sert mon livre ? Et il sert justement à essayer d'éviter tout ça et de rappeler un truc qui est fondamental mais qu'on ne dit pas suffisamment souvent, c'est qu'effectivement, il y a du réel. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Ces choses, ça s'appelle les faits. Et si la vérité nous échappe quelque peu depuis un certain nombre d'années, il y a quand même un truc sur lequel on est obligé de tous se mettre d'accord, c'est qu'il y a des faits. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Et donc ce livre, il essaye de rappeler le fait qu'il y a des faits, que 2 et 2, ça fait 4, et que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui crient super fort et qui nous disent que ça fait 3 ou que ça fait 5, et qu'ils ont raison.
Voilà. Merci pour ce résumé. Je pense que ça vous aura tous donné envie de voir les 20 autres exemples assez rigolos que que tu nous donnes.
Je me permets quand même de dire un truc, c'est que il y a un pigeon là depuis tout à l'heure qui nous regarde. Moi, je suis très inquiet.
Voilà. Non, mais moi, je me posais en fait une question tout le temps. Excuse-moi, mais ma pensée a bugué là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait des crottes ?
Et ça, c'est de la pollution.
De réalisme.
C'est pour vous rendre servile. Voilà, c'est comme les traces des avions dans le ciel. Ça, c'est du sida répandu sur les populations. Ben voilà, les crottes de pigeons, c'est pareil. Vous voyez comme quoi, finalement, la post-vérité, ça peut aller jusqu'à une table ronde à Livre en Marche.
Bon, et devenir un sujet très sérieux. Alors, pour qu'on soit bien tous alignés sur ce dont on parle, j'aimerais vous faire le test de la définition. Et j'ai décidé d'être complètement arbitraire, donc c'est moi qui décide de quel mot vous allez donner la définition, mais vous avez le droit de vous rebondir les uns sur les autres. Donc, Michael, je voudrais que tu commences par le mot « vérité », qui n'est pas fait. C'est différent, il me semble.
Oui, c'est différent. La vérité, c'est ce qui existe indépendamment des croyances. Nous avons développé collectivement, nous les sociétés humaines, quelque chose de formidable qui s'appelle la science, dont la vocation est de se rapprocher le plus possible de la vérité. Et par exemple, typiquement, qu'est-ce qui fait qu'on peut se rapprocher de la vérité ? C'est avec un protocole scientifique, une méthode particulière qui fait qu'un chercheur qui appliquerait le même protocole alors que nous pensons tous différemment les uns des autres, il aboutit au même résultat.
Merci. Carole, post-vérité.
Tu vas peut-être pas être contente de ce que je vais dire et peut-être que Michael sera pas d'accord. Tu vois, tu auras du débat. Moi, je ne crois pas en la post-vérité. Pourquoi ? Je vais vous parler d'un personnage, Don Quichotte. Et Don Quichotte, un philosophe, Michel Foucault, le prenait comme exemple du marqueur d'un changement d'époque. Il disait, avant Don Quichotte, on vivait dans un monde où on ne pensait que par ressemblance. Et dans le monde, quand on marchait dans le monde, quand on cherchait à connaître le monde, on cherchait ce qui se ressemblait et on projetait nos récits sur le monde. Puis après, Don Quichotte, ça a changé. Alors, pourquoi est-ce que Don Quichotte est le dernier représentant de la pensée qui se projette sur le monde ? Parce que quand il voit un moulin à vent, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne voit pas un moulin à vent, il projette sa mythologie. Et sa mythologie, c'est les romans de chevalerie. Il se demande à quoi ça ressemble dans sa mythologie. Il dit, mais ça ressemble à un géant. Donc, en fait, c'est un géant. Et d'après Michel Foucault, après Don Quichotte, quand on pense comme ça, on serait fou. On serait rentré dans l'ère des Lumières et les Lumières auraient éclairé le monde et on ne marcherait plus dans nos mythologies, on marcherait dans la recherche de la vérité. Sauf que moi, je crois que ce n'est pas vrai. Je crois qu'on a toujours continué à marcher dans nos récits. On a toujours continué à utiliser nos story worlds. Don Quichotte, son story world, c'était la chevalerie. On continue à projeter nos story worlds sur le monde. Et des fois, ces univers narratifs, eh ben, c'est des sciences économiques, des fois, c'est des sciences politiques, des fois, c'est des religions, des fois, c'est des livres aussi. Hein. Il y a plusieurs, il y a des story worlds personnels, des story worlds collectifs. Donc pour moi, le leurre, le vrai leurre, c'est de croire qu'il y a eu une époque où on a cessé de marcher dans nos mythes.
Ok, réponse à méditer pour post-vérité, on pourra y revenir. Oui. Thomas, fake news.
Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui parlent anglais ? Ah, monsieur est courageux en plus. Ah, mais attends, on a même une prof d'anglais. Je la connais, excusez-moi monsieur, je vais embêter Anne. Alors, est-ce que vous pourriez, ma chère Anne, on va se vous voyez pour l'exercice, me traduire en français le terme de fake news. Fausse nouvelle. On pourrait peut-être dire fausse information. Mais si on devait, et là je me tourne vers monsieur, traduire en anglais le terme de fausse information, qu'est-ce qu'on dirait ? Ouais, on pourrait peut-être dire wrong news, false news. En tout cas, est-ce qu'on irait immédiatement sur le terme de fake ? Pas forcément. Eh bien, pour une raison très simple. Les fake news, c'est pas du tout la même chose que les fausses informations. Les fake news sont intentionnelles. Elles sont fabriquées pour vous manipuler. Et elles n'ont pas de conséquences négatives pour ceux qui les diffusent. Les fausses informations sont dans l'immense majorité des cas des erreurs. Des erreurs éditoriales faites par des journalistes professionnels. Et elles ont des conséquences pour ceux qui les diffusent. Parce qu'ils doivent s'excuser, expliquer, publier des correctifs, respecter la loi française qui dit que quand il y a une information diffamatoire qui est publiée, il y a des conséquences. pour nous, citoyens qui consommons de l'information, cette différence entre le faux et le fake, en réalité, elle n'a pas grand intérêt. Puisque nous subissons des mensonges qui sont diffusés. Et donc, c'est la galère. Mais si on essaye de réfléchir à ce phénomène, parce qu'on veut potentiellement le comprendre, peut-être qu'on veut y répondre, éventuellement même y trouver des solutions, et bien comprendre les motivations intrinsèques qu'il y a derrière, c'est très important. Monsieur Trump, par exemple, ne va jamais s'excuser d'avoir dit lundi que le Doliprane pris par une femme enceinte rendait les enfants autistes. Jamais il ne s'excusera de ça. A l'inverse, quand l'AFP vous dit que Martin Bouygues est mort alors que c'est pas vrai, ils sont obligés de publier un correctif et les journalistes qui ont fait ce truc-là, je vous jure que cette année-là, ils n'ont pas eu d'augmentation. Donc il y a une vraie différence entre les deux qui est assez fondamentale, non pas pour comprendre ce que nous voyons, mais l'intérêt de ceux qui les fabriquent. Et c'est là-dessus qu'il y a une différence très importante. En réalité, les fake news sont pas du tout un phénomène nouveau, mais leur ampleur sont très nouvelles parce que nos manières de nous informer ont changé et que dans cette nouvelle manière de nous informer, eh ben, y a un peu la règle du monde d'avant qui a sauté. Et donc, on a une absence de règles. Et dans l'absence de règles, bah finalement, bizarrement, quand on donne la possibilité aux gens de dire n'importe quoi, eh bah figurez-vous qu'ils disent n'importe quoi.
Et surtout quand ils ont un intérêt à dire n'importe quoi.
Alors effectivement, il y a une deuxième couche, c'est que souvent, le fait de dire n'importe quoi, ça marche mieux que de dire des trucs très sérieux. En gros, votre petit cousin de 14 ans qui fait une chaîne YouTube sur la Terre est plate, oui, Jean-Kévin, on te voit. Ça marche mieux que les grands discours de Thomas Pesquet qui revient de la Station Spatiale Internationale. C'est terrible.
On reviendra sur les motivations de ceux qui poussent quelque part ou qui insufflent ou qui créent ces fake news. J'ai une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez très rapidement et qui est peut-être un peu naïve, mais j'aime bien les questions naïves. Pourquoi on dit post-vérité dans lequel il y a quand même vérité? Pourquoi on ne dit pas juste mensonge, ce qui serait quand même peut-être plus simple pour go?
Je peux essayer un Allez-y. Peu. Mais en fait, je crois que l'idée que la post-vérité, l'idée de la post-vérité, c'est pas le moment où il n'y a plus de vérité. C'est le moment où nous n'avons plus ce qui nous permet d'établir nos vérités. Donc, en réalité, moi, j'ai un moment très précis dans lequel tout ça est arrivé. Hein. On est le 21 janvier 2017, c'est l'inauguration du premier mandat de Donald Trump. Toute la matinée, les équipes de Trump nous font monter l'idée qu'il y aura beaucoup plus de monde pour voir M. Trump qu'il n'y avait de monde pour M. Obama en 2009. Les journalistes américains sont taquins. Ils vont vérifier cette affirmation. Ils vont donc faire un truc vraiment débile. Ils vont prendre des photos aériennes et les comparer. Et quand on regarde la photo de 2009 où il y a Obama, les pelouses qui séparent le Capitole de la Maison-Blanche sont pleines. Et quand on regarde celle de 2017 pour Trump, elles ne sont pas pleines du tout. Et franchement, mais même un aveugle confronté à ces photos est obligé de dire qu'il y a plus de monde pour Obama que pour Trump. Et finalement, en vrai, on s'en fout un peu. Mais confronté à ces deux photos, la conseillère en communication de M. Trump va nous expliquer que non. En fait, il existe quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui ne sont pas une autre vérité, mais des faits alternatifs. Alternative facts. Et bien, s'il peut exister des vérités alternatives, les faits alternatifs, ça n'existe pas. Et ce jour-là, en fait, notre monde a basculé. La post-vérité, ce n'est pas l'absence de la vérité, c'est le moment où il y a des faits alternatifs.
Vas-y, Carole. Mais moi, c'est là-dessus que j'avais envie de parler, sur cet exemple que tu donnes, en apportant une notion qui est importante à mon sens, qui va reboucler sur les story world et qui vient aussi de la narratologie. Il existe deux types de vérités. Il existe la vérité des faits, mais il existe aussi, quand on s'intéresse au récit, la vérité de fiction. Qu'est-ce que c'est la vérité de fiction ? Certains d'entre vous connaissent peut-être l'univers narratif, le story world de Dune, de Frank Herbert. Dans Dune, on peut plier l'espace pour se déplacer. C'est vrai dans Dune. C'est la vérité de fiction dans Dune. Tout l'univers va fonctionner sur cette base narrative. Sauf que si vous montez sur un building et que vous dites « je vais plier l'espace et je vais descendre en pliant l'espace », vous faites un pas en avant, vous n'allez pas plier l'espace. Vous allez vous retrouver comme le pigeon. Enfin, pas comme le pigeon parce que lui, s'est volé. Donc en fait, la vérité de fiction, c'est qu'à l'intérieur de Dune, dans ce story world, c'est vrai. Mais pas dans la vérité commune, dans la vérité des faits. Eh bien, pour les adeptes d'un monde de croyances, qu'ils soient politiques, religieux, économiques, sociaux, familiales. Pour eux, la vérité, c'est la vérité de leur story world. Donc, qu'est-ce que nous dit Kellyanne Conway.
Kellyanne Conway.
Elle nous dit, mais c'est pas un mensonge, c'est la vérité de fiction de notre story world MAGA. Et à partir d'aujourd'hui, je vous demande de croire avec moi à cette vérité de fiction et de remplacer le réel du monde, d'avoir une réalité, on revient au mot de réalité, je vous demande de construire avec moi la réalité MAGA à partir du story world MAGA, comme Don Quichotte. Et dans notre monde où nous allons tous rêver ensemble, on sera les plus forts, les plus beaux, les plus extraordinaires, make us great again, et c'est juste un fait alternatif puisque c'est le fait de ma vérité de fiction. Et on reviendra tout à l'heure, je pense, sur comment on fait pour croire tous ensemble.
Oui, parce que c'est indispensable. Tu veux rajouter quelque chose,
Michael? Ah oui.
Vas-y, Michael.
Donc, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un dédain croissant pour les faits et des attaques contre la science qui sont véritablement massives, en plus à une époque où nous n'avons jamais historiquement dans l'histoire des sociétés humaines été aussi formés. Et je dirais que le caractère véritablement plus neuf de l'ère de la post-vérité, c'est que de plus en plus, on réfléchit avec un objectif qui n'est pas de découvrir la vérité. Et on a cet objectif-là parce qu'en chacun de nous, il y a dans l'inconscient des besoins psychologiques fondamentaux qui ne font pas forcément bon ménage. Certes, il y a en chacun, chacune d'entre nous, ce qu'on peut appeler un besoin de vérité, où évidemment, il vaut mieux être dans le vrai si on veut connaître le succès dans nos décisions. Mais quand il s'agit de réfléchir à des choses abstraites, le succès n'est pas évident. Il y a également en chacun de nous un besoin de sens, un besoin certainement de récit, un besoin de sécurité cognitive, où le monde est plus rassurant quand il a un sens, justement. Et un besoin d'affection, qu'on peut décliner en amour propre, puisque la chose la plus difficile au monde, c'est de s'aimer soi-même. Et c'est sans doute une chose très importante. Et également d'attachement au groupe. Il faut que l'on fasse, qu'on se sente partie d'un groupe, et c'est ça aussi qui nous réchauffe. Et on peut réfléchir avec l'objectif de maintenir, de sauvegarder coûte que coûte certaines croyances parce qu'elles sont importantes pour nous, importantes pour le groupe auquel on fait partie, importantes pour notre amour-propre. Et donc, c'est en fait cette instrumentalisation de l'intelligence. L'intelligence n'est qu'un outil. Et pour bien comprendre la post-vérité, il faut prendre conscience de ça. C'est un outil formidable. C'est un outil qui peut être d'une redoutable efficacité. Mais tout dépend de l'objectif avec lequel on mobilise cet outil, avec lequel on manipule cet outil. Si notre objectif n'est pas à la recherche de la vérité, on va être très efficace pour croire en des idées infondées, absurdes, spéculatives, les impensées, hein, les points aveugles d'un raisonnement. Vous savez, un raisonnement dans le domaine de la réflexion sur la société, alors disons le mot des sciences sociales, un raisonnement c'est comme un pont. Aussi impeccables soient vos raisonnements, s'il y a un seul point faible important, une seule chose que vous n'avez pas aperçue, mais qui change tout, voyez, quelque chose d'infondé, tout votre raisonnement s'effondre.
Le maillon faible.
Oui, et donc, en fait, c'est pour ça que ceux qui vont être dans ces croyances-là ne sont pas forcément stupides du tout. Pas du tout. Et ça serait une grave erreur que de réduire ça à de la bêtise. Non, ce qui se joue là, c'est un détournement de l'intelligence, c'est une instrumentalisation de l'intelligence pour satisfaire d'autres besoins.
Et c'est vrai que les émotions ne font pas bon ménage avec les faits. Et ça, tu nous le démontres. Minute culturelle, je sens que vous êtes chaud pour ça. Je voudrais amener dans cette salle un grand philosophe français qui a dit « On nous cache tout, on nous dit rien, plus on apprend, plus on sait rien, on nous informe vraiment sur rien ». Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Merci. Ah ben voilà, il y a des grands intellectuels comme moi, Jacques Dutronc. Est-ce qu'il y a de quoi devenir parano? Qui dans la salle se sent parano? Vous vous sentez pas parano? J'adore. Mais quand même, il y a toujours eu manipulation. Mais ce qui change aujourd'hui, et je crois qu'on en vient là dans nos échanges maintenant, parce que cette réalité se balade autour de nous. Aujourd'hui, ce qui change par rapport à l'époque de Don Quichotte, par exemple, c'est les réseaux, c'est la data, c'est les algorithmes, c'est le vrai gros trublion qui amplifie tout ce qui nous occupe, donc de ces sujets de fake news ou de post-vérité. Et le numérique est partout, il est en nous, il est dans nos téléphones 24 heures sur 24. On ne peut plus y échapper, même si on voulait vraiment. Alors pourquoi c'est grave ? Enfin, prenons le postulat que c'est grave. Peut-être que vous allez me dire que ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, pourquoi c'est grave ?
J'aimerais vous raconter une expérience que j'ai menée hier au lycée Monge à Chambéry.
Hier ?
Hier.
Donc je n'étais pas au courant. Donc ce n'est pas dans mes questions.
Donc j'étais invité par ce lycée. Et il y avait à peu près 140 élèves de première et de terminale. Je leur ai demandé de taper le même terme de recherche sur YouTube, vous voyez bien la plateforme de vidéo, et le même terme de recherche sur Google, vous voyez le moteur de recherche. Alors, ils devaient me renvoyer, chacune d'entre eux devait me renvoyer les 3 premières suggestions de YouTube et les 5 premières suggestions de Google. Donc si l'algorithme, c'est quoi ? C'est une suite de règles qui va structurer le boulot des moteurs de recherche. Hein, c'est en fonction de l'algorithme que les moteurs de recherche travaillent. Donc si ces algorithmes étaient purement techniques, eh bien on aurait dû avoir 3 résultats sur YouTube, 5 résultats sur Google. À votre avis, combien de résultats avons-nous eu ? Si on fait une vente aux enchères, là. 25, pas mal, mais bon, ça ne me convainc pas encore, c'est pas assez. Est-ce que vous avez une petite idée ? 30, non, mais soyez plus ambitieuse.
Autant d'enfants.
En fait, il y a eu, sur YouTube, il y a eu 50 résultats, et sur Google, il y en a eu 80, à peu près, différents. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Donc ça, déjà, c'est une démonstration par l'exemple, et donc ça les a happés, ça les a captivés, c'est une démonstration par l'exemple que ces algorithmes ne sont pas faits pour acheminer vers nous le meilleur contenu, le contenu le plus intelligent, le plus véridique, mais ils sont faits pour que l'on interagisse avec ce contenu, ce qu'on appelle l'engagement. Hein, il faut pouvoir interagir le plus longuement possible, et c'est dans le but, c'est avec ce but-là qu'ils sont structurés. Donc en fait, les biais des algorithmes vont s'appuyer sur nos biais cognitifs. Et c'est avec notre complicité involontaire, on peut presque parler de servitude involontaire, hein, que on va pénétrer, sans qu'on en ait conscience, dans une espèce, appelons pour l'instant, pour aller vite, une sorte de bulle cognitive, même si c'est plus complexe. Il y a des dynamiques plus complexes qui se jouent. Mais je ne vais pas monopoliser la parole, donc je me tais.
Tu ne te souviens plus de la question ?
Désolé, je bats ma coupe.
J'étais en train de me demander combien de résultats on avait.
Non, mais pourquoi c'est plus grave de... Il y a un avant-après algorithme. Pourquoi c'est plus grave ? Pourquoi... Je peux juste me dire parce que ça amplifie. Si tu veux... Il y a plein d'autres questions après, donc tu peux faire court. Hein.
Non, mais si on veut, ça serait effectivement très très long de développer tout ça. Mais en fait, on a cru que le progrès technologique serait un progrès humain. Et qu'il irait dans le sens de nos visions aussi politiques d'une certaine manière. Moi, j'ai un peu le sentiment que ces plateformes numériques ont réussi en 20 ans à foutre en l'air 2000 ans de progrès civilisationnel. En fait, pendant 2000 ans, on a cherché à lutter contre les instincts grégaires de l'être humain. Et depuis 20 ans, on a décidé de les subventionner de manière algorithmique, permanente, de manipuler les citoyens à leur insu. Et moi, vraiment, je milite pour la fermeture pure et simple des réseaux sociaux et leur interdiction. En tout cas, tant qu'ils ne respecteront pas nos lois. Je suis très souvent effaré de l'espèce d'apathie généralisée sur cette question et du nombre de gens que je vois défendre l'idée que ces réseaux seraient une forme de liberté. En réalité, je ne crois pas qu'on peut avoir de liberté quand on n'a pas de libre arbitre. Et ces réseaux, en fait, nous ont privés de notre libre arbitre. Et donc, je crois qu'il faut arrêter. Et quand on voit aujourd'hui, pendant tout un... Moi, j'ai été l'un des premiers journalistes à m'intéresser à l'affaire Cambridge Analytica. Et j'ai fait le premier documentaire sur ce sujet. Cambridge Analytica, c'est le plus gros scandale politico-numérique de notre histoire. C'est quand une entreprise a décidé de voler les données Facebook des citoyens américains pour les manipuler avec des fake news et faire gagner M. Trump. C'est l'entreprise qui a organisé la campagne autour du Brexit avec les mêmes résultats que vous connaissez. Et moi, quand je vois, par exemple, que cette semaine, la personne qui a été nommée pour être le régulateur des réseaux sociaux en Irlande, qui est le pays européen dans lequel tous les réseaux sociaux américains ont leur siège social, donc qui est la personne qui va réguler les réseaux sociaux pour la totalité de l'Union européenne, cette personne, c'était la lobbyiste de Facebook qui a caché l'affaire Cambridge Analytica aux journalistes. J'ai envie de pleurer, je vous le dis. Et je crois qu'il va falloir qu'on change radicalement les choses. On est en train de laisser nos gamins se faire manipuler par un réseau social chinois. On est en train de laisser nos adolescentes avoir des envies de suicide parce qu'elles passent leur temps sur Instagram. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est une étude interne à Facebook qui montre que 16% des adolescentes britanniques ont des pensées suicidaires quand elles ferment l'application. Je voulais juste imaginer ce qu'on dirait d'un constructeur automobile dont 16% des voitures se crashent sur l'autoroute quand elles circulent. Est-ce qu'on le laisserait fonctionner ? Non. Donc je crois qu'il faut arrêter. Et donc nous n'avons plus le choix. Il faut désormais dire non. Et quand on voit qu'en plus les patrons de ces trucs-là, à minima, sont les soutiens de Trump dans le bureau ovale, ou au pire font des saluts nazis à la tribune du CPAC. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour comprendre qu'un salut nazi, c'est un salut nazi, quoi ?
On est dans une vérité alternative. Un salut nazi, c'est un salut.
Oui, mais je sais bien. Cette semaine, on a Alex Jones, le principal complotiste de la planète, qui s'est fait la moustache d'Hitler. Le premier dans la salle qui me dit que c'est pour ressembler à Charlot, je vais m'énerver.
Non, mais alors, j'aimerais bien poser la question suivante. Et Carole, tu vas avoir plus de temps.
Je ne peux pas répondre à cette question.
Excusez-moi. Si tu veux, tu peux. Pourquoi on dit... Voilà, vas-y.
Oui, non, parce que, en fait, je vais le prendre autrement que vous le prenez.
D'accord.
Moi, j'aimerais parler du mot habiter. Qu'est-ce que c'est habiter ? Habiter, c'est être quelque part présent avec son corps, c'est travailler, se relier aux autres, consommer, étudier, aimer... être avec les gens, c'est être quelque part. Et moi, j'ai fait partie des gens qui ont construit Internet quand ça s'est construit. J'ai été une pionnière de la littérature, de la démocratie numérique. Et pourquoi je l'ai fait ? Parce que je me suis dit, l'engagement politique de nos générations, maintenant, c'est ça. Pas parce qu'on n'est pas en train juste de construire des outils. On est en train de construire un lieu qu'on va habiter. On est en train de construire l'extension de l'habitat, de l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle l'écoumène en géographie. Donc, on est en train de construire un écoumène, un lieu de vie pour nous les humains, qui est constitué d'écrans, de médias. Le média, ce n'est pas que l'image, c'est aussi le texte. Et dans lequel on va exister et habiter. Sauf que j'avais vraiment conscience qu'il y aurait quelque chose de différent dans cette habitation. Là, on est tous dans un espace physique, avec nos corps, dans une présence. Mais dans les médias, ce n'est pas la présence. On est en représentation. On est dans une représentation, en représentation, comme des personnages. On devient des personnages. Si vous êtes dans une visioconférence, vous avez le petit encart, là où vous vous voyez avec les autres. Quand vous êtes sur un réseau social, vous avez votre photo, quelque part, même si c'est un dessin, même si c'est un mot. Et pour moi, il se passe là quelque chose de fondamental. On est en train d'écraser la distance entre la présence et la représentation. Entre l'habitat physique et l'habitat médiatique. Et là, dans cet écrasement entre la présence et la représentation, entre le physique et le médiatique, il se passe quelque chose où notre rapport au réel est bousculé et où tout le reste est possible, des manipulations. Il y a une deuxième chose, c'est que dans cette matrice médiatique qui nous entoure et dans laquelle nous vivons désormais, tout nous vient de la même manière. Que ce soit la captation du réel, que ce soit la mise en scène du réel ou le deepfake. Et donc, comment on fait, nous, petits personnages, dans tout ça, pour pouvoir nous en sortir ? Donc, ça change quelque chose. Non, mais... Avant même les algorithmes, avant même les réseaux sociaux, par le fait d'habiter le numérique. On ne fait plus que... La seule chose qu'on ne fait plus dans le numérique aujourd'hui, c'est ce qui relève de la fonction biologique pur et dur, se laver, etc. Mais même l'amour, on peut le faire dans le réseau social. Pas dans le réseau social, mais dans le numérique.
Non, tout à fait juste. C'est une composante de nos vies, mais pire encore, on devient une composante du système, comme tu le soulignes. Donc, et quelque part, on est des victimes consentantes, c'est ce que tu dis aussi. On est dopé à l'issue de notre plein gré, responsable mais pas coupable. Et j'aimerais bien qu'on parle, parce qu'on connaît tous l'adage « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». J'aimerais bien qu'on parle de à qui profite le crime. Il y a des gros intérêts derrière la data, il y a des architectes invisibles du récit, facilités par le story world, comme tu le dis, Carole. Il y a des influences plus ou moins discrètes des lobbies qui ont intérêt à rajouter des couches et des couches d'informations pour qu'on ne s'y retrouve plus, comme le « Flood the Zone » de Steve Bannon. On le voit en politique, mais on le voit dans toutes les sphères. Il y a des grands gagnants dans cette stratégie. Il y a des grands perdants, et je pense que c'est nous. Et Thomas, tu l'as rappelé bien brutalement, mais c'est vrai. Il y a une logique d'un capitalisme du numérique qui tire profit de l'éloignement du réel qu'on est en train d'accepter, quelque part. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter cette influence des lobbies sur le récit médiatique et politique? Et comment est-ce qu'on peut s'affranchir des peurs que ça génère? Parce que c'est fait pour nous effrayer aussi, tu as insisté sur le mot...
Oui, alors je ne pense pas que ce soit une question de lobby, c'est juste une logique structurelle. Si on essaie d'optimiser l'engagement, c'est-à-dire le fait que les utilisateurs et utilisatrices interagissent avec le contenu proposé, c'est parce que ces entreprises visent, les entreprises qui conçoivent les algorithmes, visent la maximisation des revenus publicitaires. Donc c'est une logique structurelle, c'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est pas en changeant de gouvernement que ça va disparaître. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais surtout dans cette logique d'engagement, en fait, ça pousse dans deux directions. Une première direction qui est celle de nous conforter dans nos croyances quand nous en avons, de nous séduire, de nous représenter le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et une deuxième logique qui est celle de susciter en nous des émotions incontrôlables. Et il y a des émotions qu'on ne peut absolument pas contrôler, au premier rang desquelles la peur, l'indignation, la colère. Donc évidemment qu'ensuite, par devers nous, le fait d'être plongé régulièrement dans cette sorte de bain émotionnel va faire évoluer nos points de vue. Il n'y a rien de tel que les émotions pour nous faire changer de point de vue, souvent à notre insu. J'aimerais ajouter un tout petit point sur le fait que sur la collaboration involontaire dont nous faisons preuve, c'est que nous sommes toujours portés à nous illusionner sur notre degré de maîtrise de nos propres pensées, par complaisance narcissique, qui est peut-être un peu indispensable, hein, par amour propre. Je vous donne deux illustrations. Lorsqu'on tape une recherche Google, 70% des clics concernent les 5 premiers résultats. On n'est pas à choisir soigneusement, non mais là ça ne va pas me convenir, non je vais aller sur la 3e page, la 4e page, pour vraiment bien réfléchir. Non, ce n'est pas ça qui se passe. Et 70% des vidéos qui sont visionnées sur YouTube sont issues des suggestions algorithmiques. Donc on a bien cette influence qui se fait avec notre inconscience. Et par ailleurs, pour juste en revenir sur ce qui joue dans notre esprit sans qu'on en ait conscience, le simple fait de se poser la question typique des réseaux sociaux, est-ce que je partage ce contenu ou pas, crée dans notre cerveau un conflit entre les deux besoins psychologiques fondamentaux, qui est d'un côté le besoin de vérité, on veut quand même être plutôt dans le vrai, et de l'autre côté le souci de la réputation, de l'amour propre, hein, de la réputation, est-ce que ça va me permettre d'être plus aimé de mon entourage, d'avoir plus de likes, etc. Donc, du fait de ce conflit cognitif, on est 18%, collectivement, hein, 18% moins capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Pourtant, se poser une question...
Ça désactive cette...
Oui, parce qu'il y a un conflit, comme s'il y avait un brouillage sur la ligne, la friture. Et donc, on n'en a pas compte. Bien sûr, quand on interroge les individus, non, mais moi... Bien sûr, vous savez, moi je fais preuve d'esprit critique, je prends, je laisse, vous savez, moi je ne m'en laisse pas compter, hein, moi je ne suis pas dédié de la dernière pluie. Évidemment, tout le monde pense ça, sauf que dans les faits, quand on constate ce qui se passe, on est dans ces cas-là 18% moins capable. Mais si l'ordre des questions est inversé, si on se pose d'abord la question, est-ce que je partage ou pas, avant de se demander, oula, mais attends, est-ce que c'est vrai ou faux, c'est 35% de discernement en moins.
Ben, il y a une super... Pardon. Il y a une super vanne d'informaticien qui va dans le sens de ce que tu dis. Vous savez ce que c'est le meilleur endroit au monde pour cacher un cadavre? C'est la 3e page des résultats sur Google. Personne n'y va jamais. Alors,
les geeks sont rigolos, merci.
Ben, de temps en temps, ils sont marrants. Tu parles de l'économie de l'attention. Et je voudrais vous rappeler une phrase qui nous avait tous choqués. Je pense que vous allez voir ça. Hein, Mon travail, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Patrick Lelay, patron de TF1, fin des années 90, début des années 2000. Ça nous a scandalisés. Mais aujourd'hui, il me manque. Il me manque parce que Patrick Lelay, la seule chose qu'il pouvait faire pour capter mon attention, c'était augmenter le son de la pub à la mi-temps du match de foot quand j'allais pisser.
Bah ouais.
Ben ouais, les pubs étaient 20 décibels plus forts que le reste des programmes. Si vous ne saviez pas, comme ça, vous savez. Ah oui, pour les plus jeunes, la télévision. Vous voyez le truc noir qui est là, là c'est un meuble chez vos parents, dans le salon, qui prend la poussière, vous ne savez pas à quoi ça sert. Tous les meubles du salon sont bizarrement tournés vers ce truc, mais vous ne savez pas ce que c'est, ça s'appelle une télévision. On parlera des DVD plus tard. Mais donc, moi, il me manque. Il me manque parce que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était donc d'augmenter le son de la pub à la mi-temps. Monsieur Musk, Monsieur Zuckerberg, ils savent déjà que j'ai envie de pisser. Moi, je ne le sais pas encore. Parce qu'en réalité, on oublie quelque chose. On voit Internet et notamment les réseaux sociaux comme un espace d'information. Mais c'est avant tout un espace de surveillance. C'est un espace dans lequel on va capter en permanence les informations les plus intimes qui vous concernent pour en faire une projection comportementale. C'est la grande chercheuse américaine, Shoshana Zuboff, qui a écrit « L'ère du capitalisme de surveillance ». Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est le bouquin fondamental du XXIe siècle. Elle explique justement que si on avait su comment les gens de la Silicon Valley allaient gagner de l'argent, on ne les aurait jamais laissé faire. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de faire un commerce de la projection potentielle de nos comportements et de la surveillance des individus. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, en réalité, on passe un peu de l'autre côté de ces réseaux sociaux. On comprend, finalement, pourquoi il faut nous maintenir dans cet état-là. Il faut nous maintenir dans cet état-là parce que ça marche mieux. Ça marche mieux de nous maintenir dans un état émotionnel que dans un état de réflexion pour capter nos attentions. Tu parles des croyances. Moi, je m'appelle Thomas. Et pendant très longtemps, j'ai porté mon prénom comme un badge de certification journalistique. Eh ben ouais, j'étais comme Saint Thomas. Et ouais, je ne croyais que ce que je voyais. J'avais même fait ce truc-là un peu la base de mon TEDx en 2017, à l'époque où j'avais fait TEDx Bordeaux. L'année dernière, TEDx La Rochelle m'a demandé de faire une conférence et je me suis un peu interrogé sur cette histoire de Saint Thomas. Ben, je ne porte plus du tout mon prénom comme un badge de certification. Parce que, à bien y réfléchir cette histoire, est-ce que Saint Thomas croit ce qu'il voit ou est-ce qu'il voit ce qu'il croit ? Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, ok ? Mais le Christ n'a pas ressuscité. On a le droit de le croire, mais ce n'est pas vrai. Et du coup, ce n'est pas possible de voir ses mains avec les trous dedans, comme Saint Thomas. Et donc, en fait, Saint Thomas, est-ce que c'est le saint patron des journalistes ? Ben, pas du tout. C'est le saint patron des complotistes. Et en fait, c'est une bascule dans mon cerveau absolument dingue. Depuis, je vous passe mes atermoiements personnels avec la religion, mais je suis plus saint Thomas d'Aquin. Voilà. Quand tu t'appelles Thomas, tu as plein de saints dans l'année. Tu peux choisir quand tu veux et tout. Alors, celui-là, il filait son manteau aux pauvres. Bon, voilà. Qui croit des conneries ou pas, je m'en fous. Il s'occupait des pauvres, ça me va. Mais du coup, je crois qu'il y a un truc qui est très important et qu'il faut qu'on comprenne tous. Pourquoi je vous parlais de cette histoire de pigeon au début ? Bah, parce qu'en réalité, les fake news, ça marche avant tout parce qu'on a envie d'y croire. Et que le vrai problème, c'est nous. C'est terrible de dire ça. Et en même temps, si le problème, c'est nous, et bah, la solution, c'est nous. Ça veut donc dire qu'il existe une solution. Ça veut donc dire que cette solution, elle peut être réfléchie, elle peut être discutée, elle peut être débattue, elle peut être mise en place, elle peut être testée, elle peut être corrigée, elle peut être améliorée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on comprend notre responsabilité, nos limites face à la puissance des algorithmes, face au biais de nos cerveaux, eh ben on se met en capacité d'être autre chose que ce sous-citoyen qui n'en est plus un, servile, vendu aux algorithmes, à ses propres pulsions, à ses propres passions. Je crois qu'en fait, il y a quelque chose de très incapacitant à la peur et à ce truc qui nous déborde, Mais finalement, il y a aussi un moyen de reprendre le contrôle, c'est de comprendre que le contrôle, c'est nous et que nous pouvons, à un moment, dire non. Ne vous trompez pas. Les grandes transformations positives de la société ne sont pas faites par des masses. Elles sont faites par des minorités éclairées. Soyez ces minorités.
Ouais, merci. Non, mais c'est très positif. Je te remercie. Et d'autant que tu as empiété sur les 8 prochaines questions, donc c'est parfait, ça va nous faire accélérer. Carole.
Mais en fait, tu es en train de nous créer un nouveau saint, c'est Saint Thomas la vérité.
Saint Thomas Huchon.
Je vais répondre à ta question, mais aussi aux choses que j'ai entendues, c'est bien qu'on se parle aussi. Tu dis aussi, que tu cites cette auteure américaine qui dit si on avait su ce qu'ils étaient en train de construire, on ne les aurait pas financés. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi et j'en sais quelque chose puisque je cherche des sous pour financer un écoumène médiatique et numérique éthique et propice depuis les années 2000 et qu'en fait on ne te les donne pas. Ce qu'on finance, c'est la promesse de profit, c'est le fantasme de profit. Et donc, si on avait vu tout le profit qu'allaient faire Google, TikTok et compagnie, on les aurait financés. Mais chercher de l'argent.
Mais certains l'ont fait. Peter Thiel, par exemple,
l'a fait. Mais si on avait su, en sachant ce qu'ils allaient faire. Mais si tu venais dire, écoutez, c'est ce que je faisais, et c'est ce que faisaient tous les gens militants engagés autour de moi, tous les Don Quichotte du numérique, on allait chercher de l'argent pour créer des outils pour le bien commun, pour le dialogue, pour l'attention, pour la connaissance. Ok, ça va rapporter combien ? Ouais, mais les gens, ils n'ont pas envie de ça, quoi. Les gens, ils ont envie de s'amuser.
Et bizarrement, ça n'a pas marché, ton truc.
Non, alors moi, toutes mes boîtes, elles sont plantées. Hein, tu vois, je n'ai jamais réussi à faire de levée de fonds suffisante. Quand je venais venir parler du bien pour l'humanité, ça, c'est tout le thème du contributif que je développe ailleurs. Mais je voudrais revenir aussi, et là, je suis d'accord avec toi, avec vous. En fait, le complotisme, ça prend pour quoi ? Ça prend parce que tout le monde sait que la propagande existe. Et tout le monde sait que cette propagande, on veut la trouver. Si on ne savait pas que la propagande n'existait pas, le complotisme, il n'existerait pas. Donc, la conscience du complotisme, on l'a tous. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Et surtout, et on reviendra là-dessus, parce que bon, je sais qu'on va reparler de ça tout à l'heure, mais la question, ce n'est pas voir le complotisme chez les autres. C'est très facile. C'est très facile, surtout si on n'est pas chrétien, de dire ben non, Jésus, il n'est pas revenu à la vie ou il n'a pas marché sur l'eau. C'est plus compliqué quand c'est notre religion à nous de dire mais ça c'est un peu délirant, ou de quand c'est nos convictions politiques, quand c'est nos convictions économiques, quand c'est nos convictions psychologiques. Donc toute la question elle est comment est-ce que moi je rentre en surveillance de mes propres convictions, croyances et ce que je crois être mes connaissances et que l'on m'a présenté comme des connaissances, même peut-être à la fac.
Tu vas à l'encontre de tes propres, de ce que tu penses être un enseignement et c'est encore plus dur, parce que si tu pensais que c'était une croyance, à la limite, tu peux te dire je peux croire en autre chose.
Mais alors, c'est Clément Rosset. Je vais répondre à ça, même si bon, je préfère le poser maintenant. Clément Rosset, c'est un philosophe qui travaillait sur le réel. Et il disait, il y a deux types de bêtises. Il y a la bêtise de premier degré et la bêtise de deuxième degré. La bêtise de premier degré, c'est quand on croit ce qu'on nous dit. On le croit vraiment et sincèrement. La bêtise de deuxième degré, c'est quand on a beaucoup réfléchi, on est très intelligent, on a beaucoup lu, on a beaucoup instruit notre réflexion, on a construit des principes, des logiques conceptuelles, et on sait. Et on sait interpréter le monde. Il dit, cette bêtise de deuxième degré-là, elle est incurable. On a beaucoup investi, on a beaucoup étudié. Cette bêtise-là, elle est incurable. Mais moi, je ne crois pas.
Est-ce que tu parles de Didier Raoult, là ou...
C'est vrai.
Je peux parler de beaucoup de choses très intéressantes sur le néolibéralisme, sur plein d'autres choses.
Il y a un exemple très concret, très rapide. Moi, vous imaginez que je ne tombe pas très souvent dans un piège complotiste. Et ben, au mois de mai, il y a un truc qui m'a vachement plu. Une vidéo sur TikTok qui montrait des extraits de la finale de la Ligue des Champions, qui montrait les défenseurs de l'Inter Milan face au PSG, qui au moment où le PSG marque le premier but, les mecs regardent ailleurs, ils sont à la pêche. Moi j'ai fait du foot amateur, si j'avais fait ça une fois, j'aurais jamais rejoué. Les mecs c'est des professionnels, c'est le match le plus important de leur vie, ils ne regardent même pas le ballon. Ça veut dire quoi ? Que le PSG a acheté la Ligue des Champions, c'est un complot. Ils ont organisé ce truc-là. Pourquoi ça m'a plu ? Eh ben parce que je suis pour Marseille, bien entendu, et que je déteste le PSG. Et donc, je voulais que ça soit nous qui ayons la Ligue des Champions et pas ces mecs-là. Hein, et donc, du coup, ça m'a hyper plu. Pourquoi ? Parce que j'avais hyper envie d'y croire. C'est avant tout ça, le complotisme.
Ça va dans ton sens. Alors, j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire qu'il nous reste 10 minutes, que donc, parmi les 4 questions qui nous restaient, je vais arbitrairement, encore une fois, choisir ce qu'on va faire. Voilà, c'est pire encore. Merci, hein, sympa. Alors, on est d'accord, on est dans une évolution technoculturelle, sauf qu'elle est différente des autres. Hein. Ce n'est pas comme la télé ou l'imprimerie, ce coup-ci, on a perdu quelque part une partie de la bataille parce que ça va beaucoup trop vite, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus en profondeur. Et je vous fais la conclusion, puisqu'on n'a pas le temps de poser la question, ça abîme notre capacité d'analyse et même d'empathie, qui sont en train de partir down the drain avec ça. Et j'aimerais qu'on parle de démocratie. Le complotisme est un poison pour nos démocraties. Thomas, toi, tu parles de dictature des algorithmes dans ton livre. Michael, tu parles de la polarisation des sociétés. Carole, des story world façonnés pour qu'on affaiblisse, enfin, qui affaiblisse nos repères démocratiques. Mais est-ce que la démocratie lutte contre ces phénomènes? Je suis contente que tu nous aies permis d'éviter la question de la responsabilité individuelle, parce que celle-là, elle m'énerve en général. Et tu dis, quelque part, on peut, nous, lutter en tant qu'individus. Il y a aussi tout l'aspect sociologique qui fait qu'on ne lutte pas vraiment parce qu'on est embarqué dans des groupes qui ne luttent pas vraiment. C'est vachement difficile de s'extraire d'un téléphone portable quand le monde entier est conçu pour que tu consultes ton horaire de train sur le téléphone portable. C'est absolument affreux. Mais j'aimerais bien savoir comment les démocraties luttent contre ces phénomènes. J'aimerais savoir si la science a encore quelque chose à faire vu ce que se prennent les rapporteurs du GIEC dans les dents à chaque fois qu'ils sortent un rapport. On peut se poser la question puisqu'on visiblement on rejette la science avec le réel et la réalité. Est-ce que l'école a une responsabilité là-dedans? Je pense que le boulot de prof, c'est un boulot de plus pour les profs, tout comme c'est un boulot de plus pour les parents. Et est-ce qu'on peut faire le poids? J'aimerais qu'on s'interroge sur le rôle des associations, des ONG, des militants. La semaine prochaine, j'ai vu qu'il y avait à l'ONU des ONG qui allaient lancer un appel mondial pour fixer les lignes rouges. Alors les lignes rouges, je pense que les acteurs des GAFAM, ils s'en foutent complètement, ça fait bien longtemps qu'ils sont passés dessus, mais bon. Il y a le droit. Le 11 septembre dernier, il y a donc eu ce rapport de 276 pages sur TikTok. Tu le sais, Thomas, parce que tu as été auditionné sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, avec une ambition de mettre fin à la toute-puissance des algorithmes, hein, depuis l'Assemblée nationale française, avec une proposition pour un pluralisme numérique. On se demande si c'est encore possible. Moi, j'aimerais me dire qu'on peut résister, et j'aimerais encore plus croire, puisqu'on est dans la croyance, que la démocratie va nous aider à lutter pour elle-même. On en est où exactement là, de cette lutte?
La démocratie est probablement le système politique le moins armé pour se défendre, lui-même. Donc, et probablement parce que quand on vit en démocratie, on imagine systématiquement que c'est établi, alors que, et ça fait un peu appel à mes travaux avant, moi avant les faux complots, je m'occupais de vrais complots. J'ai vécu au Chili et j'ai écrit la première biographie en français de Salvador Allende. Donc les histoires de vrais complots, ça m'intéresse. Et donc l'idée que la démocratie est un bien qu'il faut sans cesse défendre, ça me parle un peu aussi. Mais je crois qu'effectivement, nous sommes un peu dans une forme d'illusion que les choses sont établies, qu'elles ne le sont pas autant qu'on le voudrait. J'aime bien cette phrase de Karl Marx qui disait que l'histoire bégaye mais qu'elle ne se répète pas. Je suis un peu inquiet de constater en ce moment des formes de bégaiement un peu fascisant qui me rassure pas beaucoup. Je crois que finalement j'avais peut-être pas très bien compris comme Saint Thomas cette phrase de Marx. C'est que finalement notre connaissance de l'histoire nous empêche de refaire les mêmes erreurs, exactement les mêmes, mais ça ne nous empêche pas de refaire des erreurs. Et donc je crois percevoir un peu ce qu'il voulait nous dire. Mais ce qui est certain, c'est que la démocratie repose sur deux choses fondamentales que l'espace numérique a un petit peu aboli. Le premier, c'est la transparence, et le deuxième, c'est la confiance. S'il n'y a pas de transparence, on vit dans la peur de la manipulation, et donc on vit dans une espèce de piège, puisque la démocratie ne peut plus nous défendre, puisqu'elle n'est pas capable de nous défendre face à ces pièges. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, si on se retrouve enfermés en permanence dans nos propres croyances, à ne voir que des gens qui pensent comme nous, ben en fait, on ne supporte plus les autres. Moi, mon problème de la circulation de ces mensonges, c'est pas tant le fait qu'il y ait des mensonges, il y en a toujours eu, mais c'est le fait qu'à un moment, si nous ne partageons plus les faits, nous pouvons plus vivre ensemble. Et c'est un peu ce qu'on voit aux États-Unis d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est que la société américaine se polarise à un point où on n'arrive même plus du tout à trouver de sujet commun entre les démocrates et les républicains. Ce qui était le cas pourtant dans les années 80 ou dans les années 90. Il y avait tout un tas de sujets sur lesquels ces deux partis avaient des positions qui n'étaient pas communes, mais qui étaient conciliables. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et ça montre que y a une vraie difficulté. Il y a un bouquin merveilleux qui est un roman de Douglas Kennedy qui s'appelle C'est ainsi que nous vivrons, qui imagine l'Amérique en 2045. C'est pas très encourageant, et en même temps, quand on regarde ce qui se passe, il n'y a pas énormément de raisons d'être hyper optimiste.
Alors, mot de la fin sur ça, et si vous voulez ouvrir ou donner des clés, mais effectivement, sinon on va se faire sortir, et il y a des questions dans la salle, donc vas-y.
Oui, moi je pense à un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, et qui a réfléchi les médias, la technique et la propagande. Et il pointait ce paradoxe. Qu'est-ce que la démocratie ? C'est l'organisation de la rivalité entre les points de vue, les story world, hein, si on prend... Et il dit le problème, c'est que, et pourtant lui, il n'était pas encore à l'époque de la matrice numérique de médias et du tsunami informationnel, il était juste à l'époque des mass médias. Il disait le problème, c'est qu'il y a plus d'informations qu'on ne peut les traiter en tant qu'humain. Donc si la démocratie veut organiser la rivalité entre les story worlds, je parle de la même façon, en fait elle doit organiser la propagande. Chacun doit venir en simplifiant les idées, c'est la seule façon de se faire entendre. On simplifie, on agite, on fait bouger les émotions en simplifiant les idées. Lénine parlait d'agitation, il disait c'est quoi l'agitation ? C'est la simplification d'une idée. Hannah Arendt disait c'est quoi l'idéologie ? C'est la logique d'une idée qu'on pose jusqu'au bout. Donc on ne fait que ça, pour être, et c'est les éléments de langage, c'est les plaidoyers, c'est la pédagogie. Donc il disait on aboutit en fait à bouger les énergies qui mettent les affects en marche, qui font marcher le ressentiment, qui font marcher l'indignation, qui font marcher la coagulation des peuples. Le problème, disait-il, c'est qu'à partir de ce moment-là, on met en marche des forces obscures que l'on ne peut plus arrêter, comme on l'a vu. Donc, il disait, la démocratie à l'âge des médias, et on pourra dire, nous, à l'âge des numériques, devant ce paradoxe, elle organise la rivalité des story worlds dans l'information. Au final, elle organise la rivalité des propagandes. Et qu'est-ce qu'elle crée ? Et il a cette formule qui est effarante, mais il y aura un mot d'espoir quand même. Il dit, elle crée l'homme totalitaire à conviction démocratique. Donc, comment on fait ? Comment on fait ? Moi, je crois, et mon prochain livre parlera de ça, entre autres, je crois qu'il y a de la place pour des programmes politiques qui revendiquent de ne pas simplifier. C'est pour ça qu'aussi, quand j'écris, je ne simplifie pas tout. Je pense qu'on doit...
Et c'est passionnant, justement, merci.
On doit avancer, on doit refuser la simplification, on doit dire, je ne vous traiterai pas comme une machine émotive, je ne vous coagulerai pas, je ne vous indignerai pas, on va continuer à parler les uns avec les autres et à faire autre chose que de la simplification propagandaire.
Ah. Oui, mais...
Oui, alors, j'aurai pas le temps de développer ma conception de la démocratie, mais je pense que c'est dommage parce qu'on aurait eu un débat, parce que je suis pas d'accord avec vous, mais j'ai vraiment pas le temps. Juste sur la peur, puisqu'il y a une montée des peurs collectives qui est en partie due au biais des algorithmes. La peur va désactiver l'empathie qu'on peut éprouver pour les membres de l'autre groupe. La peur renforce le conformisme de groupe, émousse l'esprit critique, et crée une demande pour un pouvoir fort. Donc je pense que la première des choses à faire, et je vais être très bref, c'est d'essayer de lutter contre nos peurs, surtout quand les peurs sont à l'origine de nos pensées, et surtout quand c'est des peurs qui inspirent nos pensées. Parfois, la peur peut être la conclusion d'une réflexion de longue haleine, bien documentée dans le réel. À ce moment-là, ok, mais quand la peur inspire les pensées, et dans les algorithmes, on est là comme peur, comme cause des pensées, c'est là où on va avoir droit à des pouvoirs forts qui vont attaquer la science. Parce que c'est ça qui nous attend. En France aussi, ça ne se limitera pas aux USA.
Merci. En tout cas, j'espère... merci pour votre attention. J'espère que cette introduction vous donnera envie d'aller plus en avant et de vous plonger dans les livres de nos invités aujourd'hui. En tout cas, moi, je m'y suis perdue avec plaisir. Vos questions?
Oui, merci. Vraiment, merci pour votre contribution, surtout vous, madame. J'ai aimé le propos un peu plus nuancé que pour certains autres. Désolé, Thomas, je trouve que tu as... Un peu trop caricatural dans beaucoup de choses que tu fais. On aurait besoin de plus de discussions et de s'accorder sur des choses. On parle de la peur comme si seuls les réseaux sociaux étaient les véhicules de la peur. Moi, je viens de vivre 5 ans qui ont été catastrophiques. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait eu que les réseaux sociaux qui étaient là pour ça. Les médias mainstream ont été des vecteurs de peur importants. Les politiques ont été des vecteurs de peur importants. Alors oui, il y a des choses à faire sur les réseaux sociaux et oui, mettons beaucoup plus d'amour dans les réseaux sociaux, beaucoup plus d'empathie, d'humanité dans les réseaux sociaux, mais regardons-nous aussi le nombril au sein des médias mainstream pour faire en sorte que la peur ne soit pas à chaque fois le seul moteur. Et petit point complémentaire, je ne vais pas me faire que des amis, c'est dommage, mais on nous a dit... Il y a peut-être une seule chose dans le narratif qui pourrait me permettre de comprendre que je suis passé à côté. Si je vous dis tous vaccinés, tous protégés, est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui et en quoi ça remet en cause le narratif de ces 5 dernières années? Merci.
Alors, juste les médias mainstream ou les médias en général, la presse traditionnelle, il a été démontré que en fait, les journalistes français... se servent de X comme d'un sismographe de l'actualité, comme d'un baromètre de l'opinion publique. Ils sont présents sur les réseaux pour deviner ce que doivent être les tendances. Et il a été prouvé par des calculs mathématiques scientifiques que toute hausse des tendances sur X se traduit par une probabilité très forte que le sujet soit traité dans les médias traditionnels. Et donc, en fait, l'influence du cyberespace, l'influence des réseaux déborde largement le cyberespace. Et ça pousse dans la même logique les médias traditionnels.
Il y a un cas récent qui explique très bien que les réseaux sociaux en fait débordent bien au-delà de par leurs problématiques dans le monde réel. Le premier truc, c'est que on se dit souvent que BFM va être en concurrence avec CNews, avec LCI. En réalité, BFM il est surtout en concurrence avec TikTok parce que quand vous regardez BFM, vous avez TikTok dans les mains. Et il y a une affaire récente qui montre bien que ce qui se passe sur les réseaux déborde dans le monde réel. On est en octobre 2023. Et il y a un méga buzz sur les punaises de lit. Vous vous en souvenez tous? Il y avait des punaises de lit partout à Paris. Les mecs, ils voulaient même plus s'asseoir dans le métro. Une dinguerie. Et bien, ce truc-là, c'est pas vrai. C'est une opération d'influence des services secrets russes. Comment ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle de l'astroturfing. Il se trouve que tous les jours, vous pouvez regarder, tous les jours sur Twitter, il y a entre 15 et 30 tweets qui parlent de punaises de lit. On est le premier pays touristique au monde. Bien entendu, il y a des punaises de lit. Il se trouve que je travaille, moi, avec la SNCF sur les questions de fake news et qu'ils ont exactement le même nombre de cas de punaises de lit depuis 10 ans à l'unité près. Il n'y a pas du tout eu un pic en octobre 2023, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2023? Il y a 400 bots russes qui sont arrivés sur Twitter et qu'on fait en 4 minutes 10 tweets chacun. Punaises de lit, il y a des punaises de lit, punaises de lit, il y a des punaises de lit. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a envoyé un signe ultra fort à l'algorithme de Twitter qui a pris ce sujet et qui en a fait un trending topics, un sujet en vogue. On est lundi matin, il est 7h30, le patron de BFM TV arrive au boulot. Qu'est-ce qu'il fait pour choisir les sujets de la journée? Il se fait un petit café et dit « Tiens, on va regarder ce qui se passe sur Twitter. » Oh putain Jean-Pierre, il y a les punaises de lit là, ça buzz. Et puis attends, les punaises de lit, c'est concernant. Hein. Ça, les Français, ils ont besoin qu'on leur en parle, les punaises de lit. Ouais, t'as raison. Allez, vas-y, appelle Jean-Kévin, dis-lui de prendre sa caméra. Il va aller dans les trains, il va me filmer les punaises de lit. Il va aller dans les cinémas, il va me filer les punaises de lit. Et derrière, c'est terminé. Pendant 2 semaines, on vous parle des punaises de lit. Et la conséquence là-dessus, c'est que déjà, on s'est fait niquer d'un point de vue informationnel. L'image de la France à l'international à 6 mois des JO, je vous raconte pas. Mais plus improbable. Vous avez 5 entreprises françaises qui ont vu leur chiffre d'affaires gravement impacté par cette histoire. Air France, Accor Hôtel, SNCF, RATP et les cinémas UGC. Personne n'a compris pourquoi il y avait des punaises de lit chez UGC et pas chez Pathé. Hein. Mais bon, ça on en a... Peut-être que les Russes n'avaient pas le fait que Pathé fait des cinémas, j'en sais rien. Mais du coup, ça montre bien que tout ce qui se passe dans cet espace numérique, ça impacte, y compris ceux qui ne sont même pas inscrits là-dessus. On est tous persuadés qu'il y avait des punaises de lit partout dans Paris. Sauf que ce n'est pas vrai. Et donc, il y a un moment où, effectivement, il va falloir qu'on s'interroge sur la responsabilité des médias professionnels, sur la responsabilité des citoyens et sur aussi notre capacité à l'emballement qui est en permanence subventionné. À un moment, il faut aussi se méfier un tout petit peu de ce qu'on a envie de croire et arriver un peu à penser contre soi-même.
Moi, je voudrais revenir à un aspect que tu détailles beaucoup aussi dans ton livre et à quelque chose que tu as cité. Tu as parlé de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, ça a été financé par Mercer, qui est un milliardaire, n'est-ce pas ? Voilà, Robert, qui était un milliardaire et qui voulait influer sur l'avenir du monde. Il y est arrivé, puisque Cambridge Analytica, c'est le même principe que le tunnel d'engagement quand on achète du clic à l'achat. C'était du premier clic au vote. Donc, il y a eu des milliards. On parle des médias traditionnels et aujourd'hui, on ne peut que constater une concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires. Ce n'est pas du complotisme, ça a malheureusement lieu. Et aussi, il n'y a pas que ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va... J'étudie beaucoup Wikipédia et les groupes d'influence sur Wikipédia qui ne sont pas tous autogérés, qui sont parfois financés. Donc, comment est-ce qu'on fait face à ça ? Avec quelle bonne volonté, nous, en tant que citoyens ? Déjà, sur Wikipédia, je pense qu'on doit s'inscrire, on doit y aller, on doit voter, on doit participer à équilibrer les choses. Mais ça prend du temps. On n'a pas les moyens, on n'est pas payé. On veut créer d'autres types d'algorithmes. Je suis absolument, personnellement, je ne comprends pas pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas soumis à la concurrence des algorithmes. Comment ça se fait ? On a bien ouvert Apple à la concurrence pour pouvoir faire des apps sur Apple. Pourquoi on n'a pas la concurrence des algorithmes ? Ah, mais ça poserait un problème. Qui financerait ces algorithmes sains ? On n'aurait pas l'argent. C'est-à-dire que d'un côté, on a de l'argent qui va financer des choses qui sont dans l'économie de l'attention. On a des milliardaires qui viennent, que ce soit le Qatar, Mercer, Bolloré ou Sterrin, avec des idéaux illibéraux, qu'ils soient coloniaux ou décoloniaux, parce que ça existe au nord et au sud, les illibéraux. Et en face, on a des gens qui veulent défendre la démocratie et qui viennent en tant que citoyens avec leurs petits bras, avec leurs petits moyens, et qui ne peuvent pas faire face à cet afflux d'argent qui vient financer des... excuse-moi, j'espère que ce n'est pas du complotisme, mais qui viennent financer des médias qui sont là pour l'économie de l'attention ou qui sont là au service de projets politiques ou de projets étatiques. Et quand c'est des États qui viennent, comme la Chine ou la Russie, ils ont aussi des moyens colossaux. Donc nous, la démocratie, c'est nous. Démocratie, c'est pas pour qui on vote, la démocratie, c'est d'abord nous. Nous, on se sent concernés, on va faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, on peut se demander aussi ce qu'on peut faire, mais quand on a envie de faire, on doit faire avec nos moyens contributifs. Parce que la démocratie, c'est la contribution, je vous renvoie à mon premier livre sur l'activité contributive, on ne fait pas le poids contre les milliards. Et donc là, je pose une question, comment on fait si l'Europe ne se décide pas à financer les projets contributifs en faveur de la démocratie qui ne sont pas lucratifs ? S'ils viennent tout le temps en disant « c'est quoi vos fonds propres ?» et « c'est quoi vos promesses de profit ?» Nos promesses de profit, c'est une meilleure démocratie, un meilleur vivre ensemble. Là, c'est très gentil, mais non, merci.
Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup. Effectivement, c'est très intéressant, votre conférence, d'autant que moi, je suis très concernée par le sujet avec une fille qui est tombée vraiment dedans. Autour des algorithmes de scarification et autres. Donc, j'y suis extrêmement sensibilisée. Puisque la solution, c'est nous, et justement, je rebondis sur ces filles, ces adolescents et ces enfants, ça passe par l'apprentissage. Alors, vous l'avez évoqué à un moment donné, justement, l'éducation, l'apprentissage. La conférence d'avant faisait aussi état du fait que la France est toujours en retard sur tout, a toujours un wagon de retard sur l'éducation, ce que j'en suis convaincue aussi. Mais là, il y a peut-être quelque chose aussi à faire, hein, parce que le futur, c'est nos enfants. Moi, je suis bien contente. Les réseaux, de toute façon, va falloir faire avec, parce que c'est comme ça. Même vous, Monsieur Huchon, vous êtes sur LinkedIn. Donc, à un moment donné, de toute façon, ça fait partie de notre quotidien. Donc peut-être que la solution passe par l'apprentissage, l'éducation. Qu'est-ce que c'est que ces croyances ? Qu'est-ce que c'est que ces convictions ? Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif ? Toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à nos enfants aussi? La façon dont ils sont algorithmiquement, de toute façon, manipulés.
Bah, je suis d'accord avec vous, madame. Mais je ne peux que aller dans votre sens. Moi, j'ai fait dans la dernière fois que je suis venu à Livre en Marche en 2022 pour présenter un autre livre. J'avais écrit déjà un plaidoyer pour inscrire dans l'éducation des savoirs fondamentaux dès l'école primaire, l'éducation aux médias et l'éveil à l'esprit critique. En tout cas, l'éducation à la culture numérique. Apprendre à lire, à compter, à écrire, c'est fondamental, on est tous d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vu que là où ils vont lire, écrire et compter, bah, c'est l'espace numérique, il faut les apprendre à décrypter tout ça. Et il y a des tas de données scientifiques qui montrent que si on le fait très tôt, il y a vachement moins besoin de le faire très tard. D'ailleurs, c'est un peu une régionale de l'État, elle s'appelle Rosemary Farinella. Elle est à Taninges et elle a, elle, développé des projets pilotes en CM1, CM2. Elle a gagné des prix de l'UNESCO, des meilleures initiatives pédagogiques. Je vous conseille de vous intéresser au travail qu'a fait cette femme-là et qui sont notamment dans des vidéos sur YouTube avec hygiène mentale. Ben oui, à un moment, c'est le lieu de la conversation. Hein. Voilà, mais pardon, excusez-moi.
Oui, alors en tant qu'enseignant en première année de licence, je donne des cours d'autodéfense intellectuelle. Juste, l'esprit critique, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Et donc, quelques petites choses. Déjà, demandez-vous, quand vous entendez quelque chose, si c'est une affirmation ou une démonstration. Ça peut être déjà très bien. Demandez-vous également si l'argumentation est ad hominem, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une réfutation de fond, elle vise l'auteur de la pensée. Là, vous pouvez tout de suite rejeter une argumentation ad hominem. Hein. C'est pour une pensée est vraie ou fausse pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son auteur. Hein. Elle est vraie ou fausse en elle-même. Est-ce que, par exemple, en matière économique, l'argumentation, elle n'est pas causale, mais elle est morale, hein. Est-ce qu'on a remplacé l'argumentation causale par une argumentation morale? Vous pouvez vous poser ce genre de questions. Vous pouvez vous demander si, par exemple, ce que j'entends et ce qui me semble faux, dans quel contexte ou à quelles conditions ça pourrait commencer à devenir vrai? Et inversement, ce que je crois vrai, dans quel contexte ou à quelles conditions ça peut commencer à devenir faux? Vous voyez, c'est en se posant régulièrement ce genre de questions qu'on entraîne son esprit critique et c'est extrêmement important. Merci.
Ça sera une phrase. C'est le mot de la fin. Pour avoir de la démocratie, pour avoir un monde commun, c'est-à-dire de la vérité, il faut que l'on puisse se parler et qu'on ait envie de se parler. Donc pour moi, ce qu'on doit apprendre avant tout, c'est la conversation.
Merci pour ce mot. Conversation sur dans le hall des auteurs, dès maintenant, pour aller rencontrer en vrai. C'est le mien, merci, tu me le dédicaceras également. Merci pour votre attention.
Vous avez aimé cet épisode? Vous aussi essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt.